Sandwich.
Sandwiches.
Les sorcières de George Sand.
Bonsoir à tous. Bienvenue sur Sandwich, l'émission du lundi soir sur Radio Résonance Bourges 96.9. En ce lundi 16 novembre, mes collègues et moi-même, nous vous avons concocté une émission spéciale Sandwich Confit. En cette période de froid, comme une envie de cocooning. Alors laissez-vous bercer par cette playlist, mais également par les histoires que nous allons vous raconter. Bonne écoute.
my lingo and beat it like a wing, yo. To combo, to Columbo, can't stereotype my bing, yo. I salt and pepper my mango, shoot spit at the window. Bingo, good I'm in the bingo. Now what I'm doing my bing, yo. Quit bending all my bingo, quit beating me like your Ringo. You wanna go, you wanna win the war. Like PLO, I don't surrender.
Sorcière, je te doute. Il fut une époque où les habitants de Sainte-Sévère redoutaient à passer devant une maison située à l'angle du pont Tracas, en bas de la ville. Les paysans, qui venaient à la foire avec leur bétail, faisaient avec leurs mains le geste de garde, index et annulaire pointés dans sa direction en disant « Sorcière, je te doute !» Quand elle croisait son occupante, les femmes détournaient la tête en murmurant entre leurs dents serrées « Sorcière, fille de druidesse !» La vieille femme qui habitait là s'appelait Amélie. En ce temps-là, dans nos campagnes, il ne faisait pas bon être différent. Et justement, l'Amélie était boiteuse et bossue. Il s'était dit que si elle était née ainsi, c'était parce que sa mère avait forniqué avec le malin. Depuis toujours, on l'accusait de tous les maux. Faire crever les poules, ôter le lait du pis des vaches, tarir les sources, jeter la clavée sur les ouailles et j'en passe. On racontait, sans l'affirmer, qu'elle avait fait languir l'hortense des jardins l'année passée. Quand le Robertissier fut emporté par le cancer, il paraît que c'était encore elle qui l'avait séché. L'Amélie laissait causer. La sorcellerie est fille de médisance. Sa petite maison lui venait de son père, mort trop tôt, alors qu'elle n'avait que 2 ans, d'une mauvaise chute d'un toit qu'il réparait. Sa mère avait eu bien du mal à les faire vivre. Le seul argent qui rentrait à la maison était celui qu'elle gagnait comme ratière taupière. Elle avait le don, et on venait la chercher de toute la région pour vider les greniers et nettoyer les jardins. Mais les gens qui demandaient ses services n'étaient pas plus argentés qu'elle. L'Amélie n'avait pas toujours mangé à sa faim. La sorcellerie est fille de misère. À l'école primaire, on lui en avait fait voir de toutes les couleurs à cause de ses infirmités. Il n'y a pas plus cruel que les gamins. Elle était partie bien avant le certificat d'études. Ce seraient les enfants et les petits-enfants de ses compagnons de classe qui prendraient la relève, plus tard pour lui jeter des pierres. À l'âge de jeune fille, il n'était pas question pour elle d'aller au bal. Quel gars aurait accepté de faire danser une ébiganchée? Elle avait beau mettre un ruban bleu comme ses yeux, à sa coiffe et arranger sa robe la moins défraîchie pour mettre le nez dehors le dimanche avec sa mère. Ils riaient tous sur son passage. Alors, elle avait rongé sa rancœur. L'Amélie n'attendait plus rien depuis longtemps. La sorcellerie est fille de méchanceté. Ne sachant plus que faire d'elle, à 18 ans passés, sa mère la loua dans une grande ferme, du côté de Bourges. L'Amélie y retrouva sa grand-mère, qui plumait là des volailles à longueur de temps. Le travail était dur, mais on les nourrissait bien. Elle envoyait chaque semaine son argent à sa mère. Comme on dit chez nous, c'était quelqu'un, sa grand-mère. On la craignait dans tout le canton. C'est elle qui lui enseigna, chaque soir, ses manigances. L'Amélie fut initiée, comme cela se fait dans les familles où l'on passe le don. Elle apprit à reconnaître les arbres utiles, l'autruche, les chaussis, le houx, et à utiliser les simples, la fausse poterelle, la ciguë, le chimou. 5 ans plus tard, quand sa mère fut emportée par une mauvaise toux, l'Amélie retourna vivre seule dans sa petite maison, en bas de la ville de Sainte-Sévère. Mais rien n'avait changé. On l'évitait de plus belle. La sorcellerie est fille de solitude. C'est en ce temps-là que l'Amélie commençait à exercer. Au début, elle ne cherchait pas à punir, mais à montrer sa puissance, à se faire reconnaître. Puis on vint la trouver, toujours le soir, à la nuit tombée. On grattait à sa porte et elle ouvrait. Une fois, c'était une jeune fille désespérée d'avoir perdu sa virginité. L'Amélie se mettait à l'ouvrage. Elle psalmodiait de sa voix usée, Kyrios clémentissime, qui abrahim cerveau, tuo destri, uscorem saram. Elle mélangea 8 gouttes de lait de feuilles d'asperge, 1/4 once de cristal minéral infusé dans un jus de prune verte, 1 blanc de frais avec un peu de farine d'avoine et, pour finir, 20 gouttes d'eau d'espargoutte. Faut oindre cette pommade sur la partie endommagée, ma petite, et cela durant 7 jours. Après ça, le fiancé qui vous fera visite, il verra que du feu, disait-elle. La gamine repartait en serrant le baume dans son corsage, après avoir posé ses sous sur le coin de la table. Le lendemain venait un marais cocu, elle réduisait en peau d'une verge de loup bien sèche, avec le poil des yeux et la barbe de sa gueule. Le tout calciné devait être avalé, sans qu'elle le sache, par la femme infidèle. Le cornard laissa 2 poules grasses et repartait sans un mot. Le loup était le plus gros problème de l'Amélie, on en voyait de moins en moins dans la région, depuis que les paysans avaient le droit de posséder un fusil. Tous les braconniers savaient qu'elle payait mieux que la prime du sous-préfet, pour un beau mâle fraîchement tué. Sa grand-mère lui disait toujours « Dans le loup, tout est utile ». Elle qui aimait, chaque année, semer la panique parmi les bestiaux du champ de foire, en passant parmi eux, fumant du foie de loup séché dans sa pipe. Ça ne valait pas du gris, mais ça l'amusait. Pour le reste, il y avait toujours un petit voyou pour aller voler les os des morts dans les cimetières ou de l'eau bénite de la Pentecôte, bien meilleure que celle de Pâques. Plus tard, il y eut ceux qui venaient pour d'autres choses. Une grand-mère à héritage qui n'en finissait pas de mourir, un voisin dont les champs donnaient trop bien, un cousin qui s'enrichissait scandaleusement avec ses ouailles. On allait trouver l'Amélie. Puis suivait la fièvre maligne, les membres cassés, les mamelles taries, les ventres gonflés. Le mauvais sort va vite. Elle ordonnait au blé, « Là, je veux pas que tu pousses. » Aux bêtes, « Je veux pas que tu profites. » Et pour le reste, elle savait y faire aussi. C'était plus dangereux pour elle, alors elle allait enterrer la charge le plus loin possible. Le mal n'était pas fait en son nom, mais sur commande. Elle veillait surtout à n'en rien prendre sur elle. Elle faisait ce qu'il faut, et c'était des pièces d'or qui luisaient sur le coin de sa table. L'Amélie se moquait de l'argent. La sorcellerie est fille de vengeance. Chez elle, c'était sombre et sale. Il y avait toutes sortes de choses indéfinissables qui séchaient, accrochées aux poutres de son arrière-cuisine. Dans sa cuisine où elle recevait, sur une étagère trônée, bien en vue, des vieux livres poussiéreux. Ses visiteurs frémissaient en lisant à la dérobée les noms sur les dos défraîchis. Le grand et le petit Albert, Euphorista des Dioscorides, Precepta Salubria des Gineta, De Occulta Philosophia d'Agrippa. L'Amélie ne savait pas lire. La sorcellerie est fille d'oralité. Une nuit qu'elle s'était levée pour aller voir ses poules qui caquetaient, sans doute dérangée par une vermine, elle avait croisé le Justin Breton, qui rentrait abreuvagé de la taverne. À la vue de ce spectre blanc, il avait échappé son vélo et s'était mis à courir en titubant. Les gueules d'empeigne allaient encore jaser dans le bourg. Le Justin a croisé à minuit l'Amélie qui allait au sabbat. Elle s'y voyait bien à son âge, gaucher sur un balai pour aller biquer le cul du grand bouc. Pauvre âme, pensait-elle. La sorcellerie est fille de savoir. Un jour, pourtant, peu bavarde, l'Amélie avait dit à son voisin, le Jérôme Bardin, « Moi, j'ai eu besoin de personne pour vivre. J'aurai besoin de personne pour m'enterrer. » Ce jour-là est venu pour elle, comme pour les chrétiens. La faucheuse a fait son œuvre. Les croque-morts ont arrêté la charrette à l'angle du pont Tracas et chargé l'Amélie dans son cercueil en pin. Le cheval est parti tranquillement, sans rien qu'on lui demande. Il n'y avait personne qui suivait, mais ils étaient tous derrière les rideaux de leurs fenêtres, à se signer sur son passage, pour se protéger du mal. Ils auraient tout le temps cette nuit pour forcer sa porte et chercher la boîte de fer blanc où la vieille devait cacher ses pièces d'or. L'attelage est passé devant l'église sans faire d'arrêt, le curé ayant refusé son coup de goupillon, puis s'est dirigé vers le cimetière de Sainte-Sévère. On l'a mise dans la fosse commune, comme sa mère, sans prière, sans croix, sans branche de buis, sans même un nom pour se rappeler. Mais se rappeler de qui? D'une vieille infirme qui avait perdu son âme? Qui aurait pu croire que l'Amélie, dans son jeune temps, avait pleuré toutes les nuits, elle qui n'avait jamais connu l'insouciance de l'enfance, les jeux de marelle dans la cour d'école, la compagnie d'une amie à qui confier ses secrets de jeune fille? Qui aurait pu penser qu'elle avait rêvé de sentir les bras protecteurs d'un homme autour de ses épaules? Et surtout, qui aurait pu imaginer que son plus cher désir était d'avoir un enfant? Un enfant rien qu'à elle, acéré sur son sein. Non, l'Amélie n'était rien qu'une vieille carne. On raconte qu'autrefois, une de ses aïeules, une magicienne, par le pacte qu'elle conclut avec le malin, engagea sa descendance sur 7 générations. L'Amélie était la dernière. Ainsi disparut l'Amélie, sorcière du bourg de Sainte-Sévère. La sorcière est fille des hommes.
J'arrondis les angles, si j'approfondis j'étrangle. Dans les tréfonds du lit je tremble, rongé par les non-dits. J'arrondis les angles, arrondis les angles. J'fais genre, mais parfois j'aime vraiment pas les gens. J'essaie de parler gentiment, agacé par les ans qui manquent. J'ai le sentiment d'avoir de l'eau tiède à la place du sang. Consciente de ma chance, j'veux m'enfermer dans la chambre. Quand je déchante, petit drame, un rien devient kilogramme. La benzodiazépine n'est pas l'intention de pas de m'y répare. Dans le silence je me répare. Méchante petite femme, charmante petite dame, deviens méchante petite femme. Ici on ne marchande pas la cam. Fais ton marche, on prend la carte. Donner de l'amour aux gens les rend meilleurs. Abandonne l'humour devant l'écran ailleurs. La bonhomie se meurt, à mon avis c'est mort. Les amis c'est l'heure, les larmes et la mort. Des gommes le love, l'économie nous leurre. Oui la vie vaut de l'or. Chacun fait son
beurre, frappe à la porte d'un bullshit job. Baisse les stores, v'là le shitstorm. Les blocs à Benidorm sont de sortie, squat toutes les plateformes. Après un plat de pâtes, c'est l'éclat sur mes plates-bandes. Une main sur le trackpad, l'autre main sur l'entrejambe. Don't read the comments. Je sais, mais c'est plus fort que moi. Quand dans mon flux, les portes témoignent, je me porte mal. J'ai envie de vomir sa mère, je vais passer pour une nerd. La camomille m'assert, je vais me faire masser pour une nerd. J'fais genre, mais parfois j'aime vraiment pas les gens. J'essaie de parler gentiment, agacé par les sens qui manquent. J'ai le sentiment d'avoir de l'eau tiède à la place du sang. Consciente de ma chance, je veux m'enfermer dans la chambre. Quand je déchante, petit drame. Rien devient kilogramme. La benzodiazépine n'est pas l'attention de pas de m'y répare. Dans le silence, je me répare. Méchante petite femme.
Back off me, let my skin breathe.
I don't wanna talk to you.
It's in my nature.
Know what I'm saying? I live with this torture.
Back off me, let my skin breathe.
I don't wanna talk to you.
It's in my nature.
Know what I'm saying? You could run, but you can't hide forever.
Arbre magique, je te hais. Taxi, s'il te plaît, de l'air frais. Baisse la musique et les vides, je veux la paix. Faut pas lever la voix ou faudra voler mes lovés. Sur ma vie, je paye le titre, mais là, je me tais. Le terre-terre est trop soupolet. Les gens trop pipelés. Désolé, c'est pas la peine. On fera pas la paire. Je fais pas tout pour plaire. J'ai pas besoin d'un pen. J'ai besoin d'un plaid. Je me répète des scénarios avec pistolet dans ma tête. Donc, je fais du woman spreading sur instru. Et si je barbe mes menstrues, ils vont en faire un immense truc. J'ai le level expert dans le rap. Je fragile. Le pire, c'est que je fais exprès pour que les rageux s'agitent. Rap de Yankli, non, rap de Yankli Doris. Anti-Boris avec une tête de gentil touriste. Moi, ça me fait pas rire quand les gens se pourrissent. J'attends les secouristes en PLS dans les coulisses. J'fais genre, mais parfois j'aime vraiment pas les gens. J'essaie de parler gentiment, agacé par les sens qui manquent. J'ai le sentiment d'avoir de l'eau tiède à la place du sang. Consciente de ma chance, j'veux m'enfermer dans la chambre. Quand je déchante, petit drame. Un rien devient un kilogramme. La benzodiazépine n'est pas l'intention de pas de m'y répare. Dans le silence, je me répare. Méchante petite femme.
Thank you.
Autrefois, dans le Babéry, on redoutait les Martes. Quand on interroge les anciens, ils vous racontent que ces femmes sauvages, qui habitent les éboulis rocheux au bord des torrents ou sous les dolmens, sont les descendantes des prêtresses gauloises. Ces druidesses, guidées par la lune, se teignent le corps en noir et pratiquent, certaines nuits, d'atroces sacrifices sur les tables de pierre. Leurs pouvoirs, accumulés au fil des siècles, les ont rendues immortelles et redoutables. Elles font venir les nuées, commandent aux orages et à la grêle, et peuvent prendre l'apparence de tous les animaux. Elles enlèvent les enfants et les font dévorer par leurs loups blancs. D'autres affirment que ce sont des fées déchues. Autrefois d'une grande beauté, elles furent, à cause de leur attrait pour les hommes et leur vie dissolue, reniées par les autres fées et condamnées à vivre dans des lieux reculés. Elles libérèrent alors le côté sombre de leur pouvoir et ne songèrent, aigries, qu'à sombrer dans le vice. Tous sont d'accord pour décrire les Martes comme de grandes femmes maigres, la peau grise et flasque, les cheveux flottant raides jusqu'aux talons. Le peu de haillons qui les couvrent laisse voir leur corps décharné et leurs mamelles qui leur tombent aux genoux. Leurs membres grêles ne peuvent laisser soupçonner la force musculaire redoutable qui les anime. Et surtout, elles exhalent une odeur fauve et tenace. Lubriques, aguicheuses et provocatrices, les Martes recherchent les hommes avec assiduité. Croyances de paysans incultes et superstitieux, me direz-vous, mais les hommes qui travaillent la terre sont des sages. Écoutez plutôt l'aventure qui arriva au pauvre Jaco. Jaco était le meilleur laboureur de la région de Saint-Benoît-du-Sault, un laboureux fin, comme on disait en ce temps-là. Il n'avait pas son pareil pour tracer un sillon profond et droit. Pour cela, le maître de la ferme le payait bien. Sa haute taille et sa belle carrure faisaient de lui la coqueluche de toutes les filles du canton. Il n'y en avait pas une qui n'ait un jour poussé ses bêtes dans les prés voisins des terres qu'il labourait, dans l'espoir de lui faire un brin de Cosette. On ne comptait plus celles qui connurent avec lui l'odeur du foie, un soir de bal. C'était un bon parti. Les filles lui tournaient autour comme des mouches et il n'était pas pressé de se passer la corde au cou. Mais, après son aventure, il se mit à fuir les femmes comme la peste et resta vieux garçon. Jaco labourait ce jour-là au Gorse, une pièce de terre sur Montgarneau. L'après-midi était bien avancé et, en regardant par-dessus son épaule, il vit les longs sillons réguliers qu'il avait creusés depuis le matin et fut satisfait. « De la belle ouvrage, dirait encore son patron. Plus qu'une heure de labour avant que le soleil ne décline, et il pourrait enlever le joug du garrot de ses bêtes. » Une grande joie lui envahit le cœur, celle de la tâche accomplie. Il se mit à brioler pour ses compagnons, deux beaux bœufs blancs, solides et courageux. C'est pour eux qu'il entonnait son chant monotone. « Allons, mes jolis bœufs, nous avons bien travaillé. Allons, allons, allez. Et tirez donc par là, mes braves. Mon blanchet, mon frisé, mes amis, allons, allons, allez. » Sa voix les réconfortait. À vivre toujours avec ses bêtes, il savait qu'elles le comprenaient. Absorbé par sa tâche, Jaco ne l'avait pas vu venir, mais son cri le fit se retourner. La Marthe était montée sur la table du dolmen au milieu du champ qu'il labourait. Elle poussait ses plaintes miaulées tout en soulevant ses haillons pour découvrir son bas-ventre qui tressautait à chacun de ses balancements suggestifs. Le sang lui monta au visage. Les anciens disaient donc vrai. Pris de terreur, il lâcha la charrue et se mit à courir comme un fou. Il trébucha dans un sillon, y perdit un sabot et reprit sa course effrénée. Un instant, il se retourna et constata que la Marthe l'avait pris en chasse. Une mamelle rejetée par-dessus son épaule, elle sautait de sillon en sillon avec l'aisance d'un cabri. Jaco l'entendait appeler de sa voix aigre avec des mots orduriers. À cet instant, il aurait pu battre à la course les meilleurs athlètes olympiques. Il sortit en trombe du champ et s'engouffra paniqué dans un bosquet tout proche. À bout de souffle, il se jeta à plat ventre dans des buissons épais. Le laboureur attendit là, recroquevillé comme un fœtus, caché sous le rideau protecteur des branches feuillues, en tentant de dominer les coups de boutoir de son cœur et le vombrissement du sang à ses oreilles. Une sueur glacée lui ruisselait dans le dos. À son odeur de fauve, Jaco sut qu'elle approchait. Elle avançait en furetant, fouillant du regard et reniflait l'air tel un loup. À 20 mètres de lui, elle huma profondément dans sa direction et, avec un cri de victoire, se roua vers les buissons où il s'était tapi. Jaco, pétrifié de frayeur, fut tiré violemment par les pieds, extirpé de sa cachette et rué de coups. En plein cauchemar, il sentit les mains griffues de la Marthe lui arracher ses pantalons. La pudeur me fera arrêter là le récit. À la nuit tombante, le patron s'étonna de ne pas trouver les bœufs à l'étable. Il se rendit au champ des Gorses, où son ouvrier devait encore travailler, et trouva les bêtes meuglant, encore attelées au bout d'un sillon. Il ordonna qu'on les ramène à la ferme et, pressentant le malheur, envoya quelques hommes avec des lanternes à la recherche de son laboureur. Ils retrouvèrent le Jaco dans le bosquet, allongé sur le dos, les bras en croix. Son corps, à demi nu, était couvert de souillures, marqué de coups et de profondes griffures. Il fut porté jusqu'à la ferme, hébété et incapable de prononcer un mot. Bien que tout sache ce qui s'était passé ce jour-là, Jaco ne voulut jamais en parler. Le laboureux fin ne retourna jamais plus travailler la terre des Gorses. Mais voici ce qu'il confessa plus tard au curé de Saint-Benoît-du-Sault. La Marthe a le visage partagé en deux. La partie de droite est jeune, d'une grande beauté, et ses cheveux sont noirs comme l'aile du corbeau. La partie de gauche a une peau grise et ridée, ses cheveux sont blancs. Son corps est fait de même, une moitié ferme et sensuelle, et l'autre moitié flasque et décrépite. Alors messieurs, si d'aventure vous êtes rattrapés par une Marthe, pour que le moment soit moins pénible, écoutez mon conseil. Fermez un œil et le bon.
Love's been never found.
Sandwich.
La Pucelle du Rocher des Fileuses. Tout en bas du département de l'Indre, juste à la limite entre Creuse et Berry, là où les eaux de la Sédelle rencontrent celles de la Creuse, avant d'aller se perdre dans le lac de Chambon, il y a des roches de granit gigantesques où s'accrochent les bruyères et les genêts. De cette hauteur, on a une vue magnifique sur les ruines de la forteresse médiévale de Crozant. Bien connu des randonneurs, c'est le Rocher des Fileuses. Mais ce lieu est à éviter certains soirs, car il peut prendre un tout autre visage. Quand les brumes de la Toussaint montent de la Creuse et que la nuit s'installe brusquement, mieux vaut ne pas s'y attarder. Pendant 3 jours et 3 nuits, le monde des morts va côtoyer celui des vivants. C'est à cette époque-là qu'elle apparaît. Comme née de la brume, une femme s'avance vers vous, vêtue d'habits d'un autre temps. Son visage aux traits fins est aussi blanc que sa coiffe de bergère. Elle tient sous son bras une quenouille et dans sa main un fuseau. Elle ouvre la bouche, comme pour vous parler, mais aucun son n'en sort. Elle s'approche et tend la main pour vous saisir le bras. Au même moment, comme pour vous avertir, un grand duc prend son envol pour sa première chasse nocturne en poussant son cri puissant. Fuyez, fuyez vite, ne vous retournez pas en courant le long des murets de pierres sèches. Traversez en hâte le hameau du Monté et sautez dans votre voiture. Vous venez de rencontrer la fileuse. Depuis bientôt 8 siècles, au moment de la Toussaint, elle attend, sur son rocher, les hommes qui s'y attardent pour les précipiter dans le vide. Mais qui est-elle? Je vais vous raconter son histoire. C'est arrivé car je l'ai vu. Cela se passait au temps où les chevaliers combattaient les dragons. Ce printemps-là, j'étais au service du seigneur de Lusignan et je séjournais à la forteresse de Crozant où j'avais pour fonction d'égayer, avec mes contes et mes chansons, les longues soirées de la dame de Lusignan et de ses suivantes. J'eus l'occasion de découvrir une coutume locale fort singulière. Les pastourelles en âge de se marier se livraient, le 1er jour de mai, à une sorte de joute. La quenouille sous le bras et le fuseau à la main, elle se rendait en haut du rocher, suivie gaiement par les paysannes de la région. Là, elle se penchait au-dessus de l'aplomb rocheux et filait la laine douce et blanche de leurs moutons. Le jeu consistait à filer un fil assez résistant pour que le fuseau puisse descendre jusqu'à toucher l'eau de la rivière. Mais il devait être suffisamment fin pour permettre, d'un coup de poignet, de faire virer le fuseau afin qu'il remonte dans la main de la bergère, enroulé du fil de laine. La première qui réussissait ce prodige était fêtée par la foule. Couronnée de fleurs, elle était portée en triomphe à la forteresse et reçue par le seigneur. Ce dernier la dotait d'une bourse bien garnie pour qu'elle puisse se mettre en ménage. Cet après-midi-là, j'assistais au ravissant spectacle avec les paysans et les villageois qui s'étaient rassemblés sur les rives. Les jeunes filles, le cœur battant et les joues rosies par l'escalade, jouaient des coudes pour se trouver la meilleure place sur le faîte de la roche, qui s'élève à pic au-dessus de l'eau, et s'activait aussitôt à filer. On voyait déjà les premiers fuseaux descendre le long de la paroi. Un fil se rompit et l'eau emporta le fuseau, au grand désespoir de la pauvrette qui s'enfuit pour cacher ses larmes. La foule faisait silence, retenant sa respiration. Seuls quelques cris d'encouragement fusaient par instants. Tout à coup, un fuseau toucha l'eau et remonta, dégoulinant de brillantes perles d'eau. Au cri que poussèrent les matrones qui surveillaient la joute, nous comprîmes qu'une bergère avait réussi. À peine descendue du rocher, elle fut hissée victorieusement sur des épaules solides et conduite au château, escortée par la foule en liesse. Un valet fit entrer la bergère dans une grande salle. Restée seule, elle attendit patiemment en tentant de calmer les battements précipités de son cœur. Tout à coup, une porte s'ouvrit, et le seigneur de Lusignan entra d'un pas rapide. Sans un mot, il lui tendit négligemment une bourse, mais aussitôt se ravisa. La bergère s'était inclinée devant lui en une révérence maladroite. Prenant son petit menton dans sa main, le seigneur l'obligea à se redresser pour mieux la regarder. Blanche, car tel était son nom, ne ressemblait pas aux autres pastourelles de la région. Elle ne possédait pas cette ossature robuste qui caractérise les paysannes creusoises. Sa taille était fine et souple comme celle d'une biche. Elle avait ôté sa coiffe pour mettre la couronne de fleurs, et ses cheveux libérés tombaient en cascade de boucles d'un noir bleuté comme l'aile d'un corbeau. Ses traits étaient fins, sa peau blanche d'un velouté de pêche. Et surtout, il y avait ses yeux bleu pervenche, ourlés de longs cils soyeux, et cette bouche, rouge et pulpeuse, comme une cerise. Non, Blanche n'était pas jolie. Elle était plus que cela. Elle était belle. L'homme ne pouvait détacher d'elle son regard indécent. Le vieux seigneur de Crozant sentit monter dans sa poitrine une sensation depuis longtemps oubliée. Le timbre grave de sa voix masculine fit sursauter la jeune fille. « Alors, tu te nommes Blanche et ton père est un de mes métayers. Un homme t'a-t-il déjà dit, Blanche, que tu étais désirable ?» La bergère ne trouva pas la force de parler. Elle se contenta de baisser la tête pour se soustraire à ce regard carnassier. « Que vas-tu faire de cet argent si je te le donne ? Te mettre en ménage avec un de ces petits journaliers qui n'aura pas conscience de la chance qu'il a de te posséder ? Ta beauté se fanera vite en lessive et travaux de ferme. Ton corps sera ruiné par les grossesses inutiles. » Comme Blanche ne répondait toujours pas, l'homme se tut un instant, semblant réfléchir, puis il reprit. « Non, je ne peux te laisser faire un tel gâchis. Ce serait manquer d'hommage envers la nature qui t'a faite si belle. Je te propose un marché. Je vais t'installer dans une petite maison discrète, non loin de Crozant. Je mettrai deux femmes à ton service. Tu auras ce que tu veux. Meubles, robes, soieries, bijoux. Et quand je séjournerai à la forteresse, je viendrai te rejoindre certains soirs. » La jeune fille était devenue blanche comme un linge. Le seigneur l'obligeant encore à le regarder, sentit le petit menton trembler dans sa main. Des larmes étaient montées dans les yeux pervenches. L'homme, remarquant son trouble, fit sa voix plus douce. « N'aie pas peur, petite sauvageonne. Je ne veux que ton bien. Je ne te demande pas grand-chose. Quelques nuits de ta vie, en échange d'une existence à l'abri du besoin pour toi et les tiens. Si tu te montres docile, je pourrais même affranchir ta famille. Retrouve ceux qui t'attendent pour te fêter, mais ne dis mot de cela à personne. Tu as l'après-midi pour réfléchir à ma proposition. Je te fixe rendez-vous ce soir, à la nuit tombante, en haut du rocher des Fileuses. Tu m'y donneras ta réponse. » Blanche retrouva les paysans qui l'attendaient dans la cour de la forteresse. Une barrique de cidre, offerte pour cette occasion par le seigneur, avait été mise en Perse et des plateaux passaient de main en main, chargés de petits pâtés en forme de croissant. Des musiciens jouaient sur la place et les jeunes dansaient une branle endiablée. La foule était en liesse. La fête dura jusqu'à ce que le jour baisse, puis les paysans retournèrent à leurs travaux, car les bêtes n'attendent pas. La pastourelle avait réussi, tant bien que mal, à cacher son émoi et n'avait soufflé mot à sa famille de son aventure. Personne ne lui avait demandé la valeur de la bourse reçue. Les pauvres gens ne parlent jamais d'argent. Elle s'était laissée emmener par la foule comme une barque détachée, ballottée par les flots, sans même comprendre ce qui venait de lui arriver. Son entrevue avec le seigneur l'avait laissée pleine de troubles. Par moments, le doute la submergeait comme une vague. Elle ne pouvait se résigner à céder à ce vieil homme au regard cruel qui ne lui inspirait que répulsion. Pourtant, il lui donnait le moyen de sortir sa famille de la misère où elle vivait. Blanche n'avait cure des cadeaux, des robes et des bijoux. Tout ce qu'elle voulait, c'était épouser son bien-aimé et vivre sa vie de paysanne au milieu d'une couvée d'enfants paillards. Que lui importait même la bourse bien garnie ? Il trouverait toujours quelque chose à faire bouillir dans la marmite. Elle allait retrouver le seigneur et lui expliquer. Il comprendrait, c'était certain. Elle entra dans l'église, s'agenouilla devant la statue de la Vierge et l'enfant, et lui fit une courte prière, implorant sa protection. Comme le soleil baissait, colorant de sang les collines, la bergère prit, d'un pas décidé, le chemin bordé de murets de pierres sèches. Elle n'eut pas longtemps à attendre. Elle entendit les sabots d'un cheval résonner sur le granit, puis plus rien. Le seigneur de Luisignan finissait de la rejoindre à pied. Tout à coup, il surgit comme un loup. Sans même prononcer une parole, il se jeta sur elle, l'enserrant à l'étouffer. Avidement, il cherchait sa bouche. Ce contact sur ses lèvres inspira à Blanche tant de dégoût qu'elle le mordit jusqu'au sang. Surpris par la douleur, le seigneur s'était écarté d'elle vivement. Des gouttes rouges perlaient à ses lèvres. Il les essuya rageusement du revers de son gant de peau. Son visage empourpré était en train de virer à la violâtre et la pommelette de sa joue gauche tremblait en un tic nerveux. Alors l'homme laissa exploser sa colère. « Je vais te dresser, chienne que tu es. Tu vas apprendre ce qu'il en coûte de mordre son maître. J'obtiendrai maintenant, ici, ce que je veux de toi. Puis je te ferai jeter dans un cul de basse fosse où tu te dessécheras doucement. Je chasserai les tiens et ils erreront sur les routes, mourant de faim comme des gueux. Chienne enragée, tu vas comprendre qui est ton maître. » La bergère avait reculé d'effroi au bout du rocher. Une pierre glissa sous son pied et, dans sa chute, émit des bruits secs en rebondissant de roche en roche avant de tomber dans l'eau. Alors elle fit encore un pas. Il n'y eut pas un cri. Quand son corps tomba, pas un son. Puis il entra dans l'eau glacée. Le seigneur se précipita, mais la nuit était tombée, et il ne put voir le corps emporté par les eaux de la Creuse. Au même moment, un grand duc prit son envol en poussant son cri lugubre. L'homme frissonna de tous ses membres. La colère quittait son corps, faisant place à un malaise étrange, l'impression qu'un venin s'insinuait en lui, un venin qui le rongerait jusqu'à la mort. Il semblait assommé, et c'est d'un pas chancelant qu'il retourna vers son cheval. 2 jours plus tard, le seigneur de Lusignan et sa dame quittaient la forteresse de Crozant avec leur suite. Ils ne s'y revinrent jamais. Vous connaissez maintenant l'histoire de Blanche la bergère. Voilà pourquoi, au moment de la Toussaint, profitant de ce moment où le monde des morts côtoie celui des vivants, elle guette les hommes sur son rocher pour les précipiter dans le vide et assouvir sa vengeance. Et moi, je prie pour elle, je prie pour qu'elle pardonne et que son âme libérée trouve enfin le repos.
Et Elle était belle et d'une blancheur laiteuse. On voyait qu'elle aimait être amoureuse. Et sa longue chevelure faisait comme une couverture à peine à voir. Maintenant sale. Ah, tu m'assassines, me sauve ton âme. C'est le diable qui accouche. Tu voudrais bien que je te touche. D'ailleurs, tu fais tout pour me plaire. On peut dire que tu sais y faire. Non, c'est l'air qui vibre et tu fais sonner. Oh, comme t'es libre et comme t'es bonne. Le grand inquisiteur sent battre son cœur. Le grand inquisiteur sent.
Never showed much fun. When door broke the wind ever since. On our way to work, the sun shone heavy on your shoulders. Nobody fixed the door. The wind ever since. When the dark is night, it feels like someone.
Des sorcières de George Sand.